fond. Résultat, aujourd'hui, eh ben, j'ai une petite crève. Mais enfin, ça va. Alors, cette expression, évidemment, j'ai voulu en connaître les origines. Et elle date du Moyen-Âge, j'ai trouvé, où les gens utilisaient souvent des proverbes et des dictons pour transmettre des informations et des observations de leur vie quotidienne. Et les dictons météorologiques étaient tout particulièrement utilisés par les agriculteurs et les travailleurs, les ouvriers, parce que bah, la météo, c'est quand même pas mal important dans leur métier. Et comme le mois d'avril se situe vraiment entre deux saisons, c'est un mois qui marque la fin de l'hiver et le début du printemps, eh ben, la météo ainsi que les températures restent quand même pas mal variables. Ce qui veut dire que même s'il y a quelques rayons de soleil pendant ce mois d'avril, ça ne veut pas dire que c'est l'été. Et donc, il faut faire attention. Il faut bah, non seulement se couvrir, mais il faut aussi se préparer, bah, notamment dans l'agriculture. Il faut faire attention à comment on aménage nos plantes, on va dire ça comme ça. Mais du coup, avec ces infos, moi, je me suis rendu compte que le temps en avril, il était tout aussi indécis au Moyen-Âge que maintenant, de nos jours. Même s'il fait quand même un tout petit peu plus chaud. Et ça, mine de rien, dans un monde au bord de la catastrophe climatique, eh ben c'est quand même une petite bonne nouvelle. Bref, en avril, ne te découvre pas d'un fil. On attendra donc sagement mai pour faire ce qu'il nous plaît. Voilà, voilà.
La question...
Pardon ?
Tu dis quoi ?
Sur Radio Chablais. Radio Chablais, programme de nuit.
Large.
Blanc. Large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Bonjour Bernard Fremont.
Bonjour Florian.
On s'est donné rendez-vous à Montet, dans le local des Tables du Rhône, association dont nous allons abondamment parler, que vous présidez depuis quelques années. Cet endroit, voilà, sobre, hein, réserve de nourriture en fait.
Tout à fait, c'est le stockage finalement du canton. En fait, l'association a été créée à Monté en 2006, et c'est la raison pour laquelle notre siège de l'association est dans notre ville. Et nous desservons l'ensemble du Valais-Roman, plus le Haut-Valais, et y compris, puisqu'on est quand même sablésien, le district d'Aigle.
On va en parler assez largement dans la deuxième partie, notamment parce qu'on n'y pense pas forcément, mais on pense toujours à la période des dons, à l'hiver, la période de Noël. Non, c'est toute l'année, hein, l'aide alimentaire, donc on reviendra là-dessus. Et puis on évoquera une table ronde hein, qui aura lieu jeudi à Sion, dans les locaux de l'OSEO, oui. sur ces questions-là. Sur malheureusement une certaine recrudescence des besoins en aide alimentaire.
Exactement.
Un petit moment sur vous d'abord, Bernard Fremont. quand on a pris contact, je me suis dit, bon, il va falloir aller creuser un petit peu pour retrouver un passé politique qui a été riche, qui s'est arrêté au début du siècle, c'est ça ? Pour ce qui est des élections.
J'ai commencé jeune et j'ai arrêté finalement jeune. D'un autre côté, c'est pas plus mal d'avoir fait comme ceci. J'ai commencé quasiment à 23 ans, j'étais président des jeunesses du Valais-Roman du PDC, et puis après finalement ça s'est enchaîné en allant comme ça quoi.
Oui, enchaîné avec plusieurs élections, y compris la municipalité de Montet, le Grand Conseil, député suppléant, député, grand baïf, hein, ça c'est député suppléant, député, c'est classique.
Oui, oui.
Grand baïf, c'est pas
oui.
Tout le monde. Hein.
Bah écoutez, c'est quand même le hasard, parce que au départ, quand on rentre en politique et on rentre au Grand Conseil, on ne sait pas forcément que ce qui va se passer d'une façon générale par rapport à la présidence. Il y a des tournus. Et bien, à un moment donné, il faut saisir l'opportunité de ce tournus pour être dans le tournus et pouvoir le faire.
Bon, vous viviez une époque dans le parti dominant, une période de grande domination du parti. On en parlait avec le parrain de cette émission, le premier invité de cette émission, c'est Georges Marietan, qui nous a raconté aussi un peu sa période, qu'il
tout
a partagée en partie avec vous.
Exactement, hein, ouais.
Où les choses étaient simples hein, pour le PDC.
Elle était simple sur le plan cantonal, elle n'était pas moins simple sur le plan de notre région, puisque le PDC à Montet était majoritaire, minoritaire. Mmh. Il a fallu attendre l'élection de Raymond Defer pour qu'on ait un président de ville qui soit à PDC. Donc nous, on avait une sensibilité quand même différente de nos amis du Valais central, où le PDC était tout puissant, mais la toute puissance n'est jamais bonne sur la distance.
Voilà, et d'ailleurs, elle s'émousse hein, d'élection en élection. Qu'est-ce que vous gardez de cette période-là? Je demande toujours aux gens qui sont ou qui ont été dans la politique, quel est le déclic à un moment donné? On est jeune homme, jeune femme, et on se dit, tiens, la chose publique m'intéresse, j'ai envie de m'engager. Vous vous souvenez de ce moment-là?
Oui, mais en fait, de naissance ou jusqu'à 20 ans, j'étais assez timide et j'ai fait des choses par défi, finalement. Je me suis dit, on peut briguer des postes, et ça vient un peu comme ça. Et puis après, je dirais que la présidence du Grand Conseil, c'est vraiment un événement très très particulier, au niveau des souvenirs, au niveau de ce qui se passe, et on voit que les Valaisans, ils sont très critiques vis-à-vis des autorités, mais quand ils reçoivent leurs autorités, c'est toujours éminemment sympathique. Et j'en rencontre aussi encore des gens aujourd'hui qui, alors que j'avais 39 ans en 1990, qui me disent « Ah, vous étiez président du Grand Conseil à telle époque », ça avait des souvenirs assez magnifiques.
Bon, c'est une année incroyable, hein, président du Grand Conseil. On peut imaginer ce que c'est président de la Confédération,
hein, tout à fait.
Et dans des plus grands pays, ce que sont ces postes à responsabilité. Mais en Valais, c'est vraiment la tournée du canton. On va des fins fonds du Haut-Valais jusqu'au lac. Il y a une représentation très, très forte à assurer. Ah, hein.
Exactement. Donc, moi, j'ai fait entre 220 et 230 représentations au niveau du canton, indépendamment des sessions.
En une année, on rappelle qu'il y a 365 voilà. jours.
Hein. Oui, oui, exactement.
Et qu'il y a des sessions.
Et en disant qu'à part ça, donc, il y avait les préparations et les sessions du Grand Conseil. Et la défense du Grand Conseil par rapport au Conseil d'État, même si le PDC était majoritaire au Conseil d'État et au Grand Conseil, nous on est là pour défendre le point de vue du Grand Conseil, et ça a bien fonctionné. Mais c'est vrai que c'est une expérience extraordinaire, parce que d'un coup vous côtoyez non seulement les Valaisans et les Valaisannes, mais vous côtoyez aussi des ambassadeurs. Je me souviens, et on a reçu aussi par exemple la présidente d'Islande, Madame Fimdogabotir, dont on s'est dit, mais comment on va lui parler? Et en fait, elle avait fait ses études à la Sorbonne, donc le déclic a été beaucoup plus simple.
Ouais. Bon, ces moments-là, le PDC dominant à l'époque, ça veut dire que pendant longtemps, on disait, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont dans le PDC, finalement. Il y avait de la gauche, il y avait de la droite, il y avait du centre. Je vois ce que vous avez fait après, beaucoup d'engagements sociaux. Est-ce que vous diriez que vous étiez un peu à la gauche du parti?
Ouais, c'est pas forcément... Écoutez, une fois, j'ai défendu au niveau de la loi scolaire, un point de vue, on m'a dit tu es d'extrême droite. Et le lendemain, quand j'ai défendu sur la loi scolaire un autre, on m'a dit tu étais d'extrême gauche. Donc probablement j'étais forcément.
Vous cherchiez un peu.
Non, je ne cherchais pas trop. J'entends. Puis à un moment donné, la politique, elle a ses limites. Quand j'étais au Conseil général la première fois que j'étais chef de groupe et quand le groupe avait perdu, j'étais un peu déçu. Puis d'un autre côté, après on se dit faut avoir l'attitude de l'avocat par rapport à son client. Si le client est condamné à mort, ben c'est pas l'avocat qui va à la place. Donc on apprend aussi à l'utiliser. Puis chez nous, comme on l'a dit, on a l'habitude de composer avec les autres partis, ce qui n'était pas le cas au niveau du canton. Et heureusement que ça a finalement changé.
Bon, la fin de votre mandat de député, hein, c'est 2003, je crois, si j'ai bien lu. Mais vous êtes resté engagé en politique. Vous avez d'ailleurs participé à des campagnes récemment, celle de Marianne Marais, hein, dernière, pour le Conseil des États. Pas la dernière fois, mais en 2019, c'est la première fois qu'elle a été élue. Oui. Donc vous avez un œil acéré sur la politique. Vous diriez qu'elle a changé entre cette fin du 20e siècle et aujourd'hui. Je vous pose la question parce qu'avec Marianne Marais, justement, qui est passée dans cette émission il n'y a pas si longtemps, on parlait de la crispation politique qui n'existait peut-être pas il y a 20 ou 30 ans.
Exactement, je pense qu'il y a une plus grande réticence vis-à-vis des autorités. D'un côté, l'être humain a tendance à penser que s'il y a des problèmes, c'est à la société ou aux politiques de le faire ou de les résoudre. C'est pas toujours le cas, à mon avis. Il y a quand même une responsabilité personnelle. Et j'ai vu, j'ai enseigné pendant 12 ans l'expérimentation de Trois Torrents. Et quand on discute avec des collègues actuellement, ça a totalement changé. Donc, probablement que les réseaux sociaux jouent aussi un rôle qui n'est pas toujours positif.
Il y a aussi la société qui se durcit. On va parler d'aide alimentaire.
Tout à fait.
La précarité est un mot qu'on trouvait dans le dictionnaire en Suisse il n'y a encore pas tellement longtemps. Hein. Les pauvres ont toujours existé, mais on ne les voyait pas.
Exactement.
On les voit beaucoup plus aujourd'hui.
Exactement, ça c'est vrai.
Ouais. Donc on a une société qui se crispe aussi un petit peu. Vos engagements, je le disais, beaucoup de... Alors ça, c'est un peu la politique, hein, beaucoup de participation à des conseils d'administration, à des associations, à des fondations. Comment on fait quand on a 17 casquettes de président pour sauter d'une à l'autre?
Alors j'ai J'ai fait qu'un conseil d'administration, c'était Biorac, mais on l'a fait à titre bénévole pour la commune. Je me suis plutôt engagé dans des organisations de fêtes, de gym, de chant, de musique, parce que je trouvais que c'était intéressant de faire. C'est une autre façon de...
C'est le carnet d'adresses qu'on vient chercher quand on vient chercher des gens comme ça qui ont été...
Probablement, parce que j'avais une activité à la fois politique et professionnelle qui aussi me le permettait de le faire. Oh. Et je le faisais volontiers dans la mesure où ça me permettait de découvrir d'autres horizons que le train-train habituel, et je l'ai fait très volontiers. Même si des fois c'était relativement dur, quand vous prenez la présence d'une fête cantonale de sang où il y a le budget de 6 à 700 000 francs où vous ne dormez pas tous les soirs, c'est quand même relativement important. Ouais. C'est assez lourd. Ouais. Mais l'important, c'est de s'entourer de gens qui connaissent bien leur domaine. Et c'est beaucoup plus simple. Donc à un moment donné, j'ai dit c'est beaucoup plus simple d'être président de l'organisation que certains postes à l'intérieur de l'organisation. Mais c'est vrai que je le fais volontiers, je l'ai encore fait récemment, mais je le fais de moins en moins parce qu'il faut laisser la place aux jeunes compte tenu de mon âge.
L'âge arrivant. Moi, j'essaie, parce que vous avez tout de suite dit, c'est souvent bénévole. Moi, je ne traquais pas forcément l'argent qu'on peut toucher dans des conseils d'administration, etc. Mais c'est plutôt l'engagement qu'on doit. C'est une sorte d'apostolat quand même de se dire. Je suis disponible. Il faut y passer du temps, il faut être sympa avec les gens, il faut aimer le contact avec les gens.
Oui, moi je pense qu'il faut aimer le contact des gens. Puis il faut aussi être bien dans le cadre personnel et familial. Ça c'est clair. Les engagements, en tout cas l'engagement politique, vous ne faites pas si vous n'avez pas discuté avec votre épouse, parce que c'était relativement prenant sur l'ensemble d'une année, même si on a fait pas mal de choses ensemble. Et moi j'étais partisan, notamment le week-end, d'aller avec les enfants, parce que j'étais représentant partie de la famille et j'ai fait ça. Ils ont toujours été très bien accueillis. Les gens au départ étaient surpris. Mon prédécesseur qui était socialiste, qui était un type extraordinaire, qui est malheureusement décédé, Gérald Jordan, il m'a dit mais moi je n'ose pas faire ça. Mais je dis mais moi je le fais. On a toujours été bien accueillis et je trouvais que c'était aussi important de le faire. Donc il faut aussi que professionnellement vous puissiez le faire, que l'entourage l'admette. Bon, avec mon épouse on s'est connus en faisant la politique, donc c'est peut-être aussi
ça aide
beaucoup.
Les passions que ça. Hein.
Exactement.
Ça peut être le macramé. Exactement. Ou la politique.
Mais là, en l'occurrence, c'était pas le cas, donc pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est vrai que puis ça fait d'autres types de défis. Vous faites une fête de gym ou une fête de sang, ou bien une amicale des chanteurs de lac à Trois-Torrents, alors que je suis sourd, mais j'habitais pas là-haut, donc ça donne quelque chose d'assez extraordinaire à faire.
Bon, on va commencer. Là, il reste une minute parce que on se rencontre principalement pour parler de ces tables du Rhône, association donc basée à Montet qui couvre une partie de l'aide alimentaire du canton. Il y en a d'autres, des associations qui s'en chargent. Juste un petit rappel historique, né quand ?
Né en 2006 à l'initiative d'André Chescollet notamment et de Siegfried Engler qui ont trouvé que c'était bien de faire quelque chose au niveau de la précarité de l'alimentaire. Et le slogan c'est d'ailleurs partager plutôt que gaspiller.
Ça fait partie de ces associations, de ces créations dont on se dit on aimerait ne plus exister. Hein
oui.
Au moment où on existe, on se dit bah, l'idéal, ça serait de ne pas exister.
Exactement. Alors, je partage totalement votre point de vue à ce niveau-là.
Bon, ben, on va parler des défis qui sont nombreux, peut-être un peu plus aigus d'ailleurs qu'il y a quelques années pour les tables du Rhône et pour les autres structures d'aide alimentaire dans la deuxième partie de cette émission.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Voilà Bernard, comment on se retrouve toujours dans ces locaux des tables du Rhône. On va parler d'une soirée, soirée de débat qui aura lieu jeudi. Alors bon, c'est à Sion, l'entrée est libre pour ceux que ça intéresse. Le thème c'est Pauvre en Valais, mon frigo est vide. Autour de cette aide alimentaire, il y aura plusieurs oratrices, orateurs, notamment le conseiller d'État Mathias Reynard, Benjamin Roduit et d'autres. Il y a un constat, ça se fait dans les murs de l'Oséo Valais. Il y a un constat d'une recrudescence des demandes en aide alimentaire. alimentaire. Alors, on a eu, j'en parle souvent dans cette émission, de cette image, mm-hmm. Pendant le Covid, des queues à Genève, c'était passé à la télévision, ça a beaucoup choqué en Suisse parce qu'on n'en avait pas l'habitude, de gens qui avaient besoin d'aide alimentaire. Le Covid, c'est fini, et pourtant, la crise continue de ce point de vue-là pour vos institutions.
Oui, alors tout à fait, la crise continue, elle a pris de l'ampleur. Je regardais encore l'éditorial que j'avais fait pour les comptes 2022, où on s'aperçoit qu'on avait de 2021 à 2022 quasiment doublé le nombre de personnes que l'on sert. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, les gens qui viennent chez nous, ils sont inscrits au service social et on leur donne une carte qui est renouvelable tous les 3 mois. Mais on a aussi accueilli les Ukrainiens. Et actuellement.
Mais toujours à travers les services sociaux. Ce qui est important, c'est que dans le fonctionnement des tables du Rhône, vous ne choisissez pas qui a de l'aide ou qui n'en a pas.
Les Ukrainiens, on a quand même pu. On a choisi parce que c'était le permis S, mais on avait quand même des liens avec le canton au niveau de l'aide sociale pour faire les choses en ordre. Mais c'est vrai que quand on voit, d'ailleurs il y a Caritas qui a fait récemment une statistique en disant qu'il y a une famille sur 5 qui est dans la précarité, donc on s'aperçoit que ça devient de plus en plus important, et avec les problèmes liés à l'inflation, l'augmentation de l'électricité et autres, on s'aperçoit que ça va continuer sous cet angle-là.
Bon, c'est des chiffres depuis un peu plus d'une année maintenant, l'inflation augmente, elle est réelle, elle est palpable, tout le monde peut s'en rendre compte au moment du panier de commission, même si ça va toucher certains plus que d'autres. J'ai lu quelque part, on parle de difficultés de la fin du mois, et on peut presque commencer à parler en Suisse, pour certaines personnes bien sûr, de la difficulté de la fin de la semaine. Les difficultés, c'est 4 fois par semaine. Enfin, 4 fois par mois, pardon.
4 fois par mois, exactement. Donc c'est pour ça, chez nous, les gens viennent d'une façon régulière, ils viennent toutes les semaines chercher de la nourriture. Ils sont, comme j'ai dit, inscrits au service social, mais on a d'autres institutions dans lesquelles nous sommes aussi. Je parle notamment des Colliers du Cœur, par exemple, de Monté, où ils reçoivent 4 fois par année de la nourriture, de la marchandise qui est aussi récoltée. Donc on s'aperçoit qu'il y a une multitude de possibilités d'aide et que ça devient aussi un défi pour l'ensemble des associations, parce que les magasins ont tendance à mieux gérer leur stock, donc ça signifie qu'il y a moins de gaspillage. Donc nous, on s'aperçoit d'ailleurs que depuis quelque temps, pour avoir la même quantité de récolte de marchandises, il faut quasiment, on fait 92 ou 95 000 km par année pour aller rechercher la marchandise. Donc on a dû doubler aussi
le
périmètre et les fournisseurs.
Ouais. Alors avant d'arriver au défi, au fonctionnement un peu des tables, je reste quand même sur cette notion de précarité. On a des gens qui sont inscrits à l'aide sociale, ils sont gérés par l'aide sociale, ils arrivent grâce à un bulletin, des coupons chez vous, dans d'autres institutions. On a aussi une recrudescence assez forte dans ce pays de gens qui sont à la limite de l'aide sociale, de gens qu'on appelle les working poors, les gens qui travaillent et qui pour autant ne sont pas assez payés pour vivre correctement. Cela n'arrive pas chez vous ?
Ben non, mais pour l'instant, les gens qui sont chez nous, les bénéficiaires qui sont chez nous sont inscrits au service social. Donc nous, c'est pas nous qui décidons de qui vient ou qui vient pas, sauf par exemple pour les permis S où on a nous directement fonctionné, mais d'entente avec le canton. Donc on pose pas de regard. Donc quelqu'un m'avait dit un jour, mais quand on a, dans le cadre du Covid, donné des bons, on a passé visant les centres médico-sociaux parce qu'on n'a pas de nom, on veut pas les avoir d'ailleurs. On sait, par contre, pour les Ukrainiens, on a des listes, on sait ce que l'on fait exactement, parce que c'est plus compliqué. Mais autrement, on n'a pas de nom, il n'y a pas un répertoire. C'est aussi une façon de respecter la liberté individuelle et les conditions individuelles. Donc, sous cet angle-là, on n'intervient pas du tout.
Alors, comment ça fonctionne ? Vous l'avez esquissé tout à l'heure, les grandes surfaces, les grands magasins, les fameuses dates de péremption, il est question de récupérer de la nourriture qui, sans cela, serait jetée, c'est ça ?
Non, alors, c'est toujours la nourriture qu'il faut dire qui est encore consommable.
Qui est encore consommable, bien sûr.
Consommable. Hein. D'ailleurs,
quand
on
s'approche
est
de la date de péremption.
Et on est contrôlé par le service cantonal d'hygiène. Oui. Donc, on fait des tri à ce niveau-là. Donc, ça signifie
que ça serait moralement absolument indéfendable qu'on dise c'est plus bon pour être vendu, donc on va donner ça aux pauvres.
Exactement, mais même si on sait que les dates de péremption, il y a un certain produit, si vous prenez votre yogourt et vous le laissez dans le frigo, même après la date de péremption, ça marche aussi. Donc sous cet angle-là, normalement, il n'y a pas tellement de problèmes. Alors chez nous, tous les jours, des chauffeurs partent. Il y a 3 ou 4 camionnettes qui partent, qui sont frigorifiées d'ailleurs, et qui vont dans les différentes surfaces, soit du district de Monté, du district, enfin l'ensemble du canton en fait. En réalité, il y a ce qu'on appelle la petite tournée, la grande tournée. Et puis depuis ici, on a du stockage de marchandises. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est pas que simplement les fournisseurs, c'est aussi des maraîchers, c'est aussi des associations qui tout d'un coup ont fait une fête et qui leur reste de la marchandise d'un certain volume et qui nous donnent. Donc ça, c'est aussi bien.
Ça, vous prenez volontiers.
On prend volontiers, mais il faut évidemment une certaine quantité, puisque on doit servir quasiment l'équivalent de 12 000 repas par semaine. Donc ça signifie qu'il faut un certain volume parce que il faut alimenter les différents. Alors, pour être clair, après la récolte, donc les camionnettes vont dans les différentes tables, il y a un tournus qui se fait par semaine, et puis les gens viennent et prennent la marchandise qu'ils souhaitent. Mais il y a, de la part des responsables de table, il faut s'arranger pour que tout le monde puisse être servi. Mmh. On sait maintenant plus ou moins combien de représentants par table ça fait, donc on a une idée de ce qui est possible, et le défi de notre coordinatrice, c'est d'alimenter les différentes tables de la même façon.
Ouais, le canton, les pouvoirs publics, les communes mettent un peu la main à la poche pour ça.
Alors les communes le mettent à la main à la poche, le canton l'a fait parce que j'ai sollicité en disant on est en train, sous la forme de boutade, on est en train de faire votre travail.
Oui, c'était un peu le sens de ma question. Hein, voilà, on se dit ça serait à l'état de.
Le canton aussi reçoit les réfugiés de 4,08% de la Confédération, ils n'ont pas tellement le choix non plus. Oh. Donc ça signifie que sous cet angle-là, on a une aide des communes. Mais notre principal, on a des sponsors, mais on a beaucoup de gens qui nous versent quelque chose par année, parce qu'on a l'équivalent à peu près de 200 000 francs de frais de fonctionnement entre le salaire de la coordinatrice à 80%, mais non, maintenant d'ailleurs on l'a passé à 100 et de la secrétaire à 50%, tout le reste est évidemment bénévole. Il y a quand même des frais d'entretien des véhicules, et les assurances et autres, donc ça signifie que on arrive à courir grâce aux dons.
Vous me disiez, a priori, on n'achète pas de nourriture, sauf si, tout à coup, on sait que le lait, par exemple, va manquer parce qu'on n'en récoltera pas assez. On voit une action, pouf, on sort un peu d'argent pour ça.
Donc, en fait, cet argent-là, c'est celui qu'on récolte quand on fait des différentes récoltes. Là, je me redis, mais des différentes récoltes dans les magasins, on reçoit des montants. Donc, on a décidé qu'on les affectait à l'achat de nourriture, même si ce n'est pas au départ de notre
année. Des achats spéciaux
et qui sont évidemment ciblés.
On disait, vous faites le job de l'État, c'est comme ça que ça fonctionne, mais on vous facilite la vie quand même, c'est ça un peu ma question.
Dans quel sens vous pensez qu'on nous facilite la vie?
En vous aidant, peut-être avec des loyers, avec des façons de vous...
On a l'avantage d'avoir la commune de Monté qui a mis les locaux à disposition, on les aménage nous-mêmes, d'ailleurs les prochains locaux, on les aménagera aussi nous-mêmes, donc sous cet angle-là, il n'y a pas de souci. Et puis il y a une bonne écoute, et il y a pas mal de communes de ce canton et du canton de Vaud et du district d'Aigle qui nous versent chaque année des montants, et ça fait aussi partie du système. À part ça, donc ce qu'il faut dire aussi, c'est que non seulement pour les bénéficiaires c'est intéressant, mais pour nos bénévoles, il y a aussi, c'est la plupart du temps, enfin la plupart, la quasi-totalité, c'est des gens retraités qui sont d'accord d'avoir une activité et qui sont aussi tout contents de rendre service et puis de faire quelque chose.
Et de rencontrer des gens en retraite active, on appelle
exactement.
Ça. J'aimerais qu'on termine cette émission, là il nous reste quelques minutes, sur ce... Ouais, j'avais l'image de l'hydre à deux têtes. Il y a le gaspillage alimentaire et il y a l'aide alimentaire. Et l'un est contradictoire par rapport à l'autre, parce qu'on essaye pour des questions climatiques, pour des questions de défense de l'environnement, pour des questions de cohérence et de décence aussi, de moins gaspiller. Mais si on gaspille moins, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, si les magasins ont moins d'invendus, on aura moins d'aide alimentaire aussi.
Exactement. Mais alors, ce qu'il faut dire, dans le gaspillage, on dit qu'à peu près 330 kilos... de gaspillage par personne, par année en Suisse. Donc, et on a vu qu'il y a une statistique qui disait il y a 1 ou 2 milliards chaque jour de nourriture qui sont dans ce monde gaspillés, mais le 60% ça vient des ménages. Donc là aussi, il y a peut-être Alors, sur le plan fédéral, il y a une volonté de faire quelque chose. Hein. Il y a eu 3 interventions au niveau du Parlement.
Assez récentes, d'ailleurs. Hein.
Intéressant, disons, vous devez prendre un certain nombre de mesures. Il y a une vingtaine de mesures qui doivent être mises en place.
C'est tout frais, 2020, hein, ça fait une année ou deux.
Ouais. À 2025, et puis de recalculer derrière. Dans une de ces mesures phares, c'est de dire on légifère de façon à ce que les grandes surfaces, notamment, redonnent aux institutions à but non lucratif et qui font l'aide alimentaire redonnent la nourriture qu'ils n'ont pas utilisée. Alors, c'est un peu d'une certaine façon dommage de faire une loi, mais faut peut-être passer par là. Tout le monde n'est pas forcément conscient de ça.
C'est quelque chose qui choque beaucoup dans la population quand on apprend, comme on l'apprend de façon récurrente, que les grandes surfaces préfèrent détruire que donner. Hein.
Alors,
ou en tout cas, ça a été le cas.
Ça a été le cas. C'est de moins en moins le cas parce qu'ils ont moins de stock. Et puis de l'autre côté, on a quand même un certain nombre de grandes surfaces. Grâce aux directions qui nous soutiennent. Et
c'est
qui
le cas en Valais. On joue le jeu. Je rappelle que vous allez récolter chez eux. Hein, donc, a priori, il y a un gentleman
agreement.
Dans
certains cas, on intervient aussi pour les rendre attentifs au fait qu'on a besoin d'eux. Et puis ça fait aussi partie, je pense, pour l'entreprise, d'une image qu'on donne de lutter contre le gaspillage. Plutôt que mettre dans le biogaz, c'est d'utiliser cette marchandise à bon escient.
Bon, puis il faut tous qu'on fasse un petit peu attention à ne pas acheter de nourriture.
Moi,
ça, c'est l'aspect de tout un chacun. Ça ne va pas forcément aller d'alimentaire. Il faut qu'on le mange, mais au moins qu'on ne le jette pas.
Exactement. Mais nul qu'en fédération, il parlait aussi du différent type d'emballage qui est utilisé, etc. Il y a des éléments comme ça, mais effectivement, on peut pas compter toujours sur les autres. Il faut aussi que chacun d'entre nous assume nos responsabilités.
Bon,
disons.
On arrive au bout, Bernard Prémont, de cet entretien. Un mot sur les bénévoles, hein, vous les avez évoqués. Ils sont essentiels, comme dans toutes ces structures. On en recherche tout le temps, des nouveaux.
Alors, on en recherche tout le temps, parce qu'évidemment, nos bénévoles ont tendance à vieillir, d'ailleurs, comme tout être humain et comme nous. Et on en recherche toujours, même si on en a 250, on est toujours à la recherche de chauffeurs. C'est une activité qui est essentielle parce que sans chauffeur, on ne fait pas de récolte, donc on ne peut pas les distribuer. Donc on est toujours ouvert. On a de temps en temps d'ailleurs fait de la publicité à Radio Chablé pour pouvoir avoir des bénévoles.
Très bien, bah merci pour cet accueil, Bernard Prémont. Je rappelle cette table ronde, ça sera jeudi soir à 18h à Sion, dans les locaux de l'Oséo, sur l'aide alimentaire. Il y aura notamment Mathias Reynard et Benjamin Roduit. Merci à vous.
Merci à vous.
Bonne nuit sur Radio Chablé. Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre?
La minute hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Aujourd'hui, dans la minute hawaïenne. Dans la vie, t'as basiquement 2 catégories de personnes. D'un côté, t'as les mecs qui ont de la barbe. Ouais, ils ont de la beubarde. Ils ont une barbe, tu vois, qui savent comment prendre soin d'elle. Ils ont des petits produits, ils ont des trucs. Elle est beaucoup trop garnie. C'est les mecs, tu les vois rouler en grosse moto, tu vois ce que je veux dire? Des bikers, avec un look de biker. Et puis, tu as la deuxième catégorie dont je fais clairement partie, ceux qui, à 37 ans, ont encore une barbe en voie de développement. Bah, tu vois déjà, à leur véhicule, qui maîtrise pas du tout la barbe. Moi, je roule en scooter. Y a rien qui va. Je sais pas utiliser une tondeuse. J'ai dû m'y reprendre à 3 fois aujourd'hui. Là, parce que d'abord, en fait, j'ai fait un petit faux mouvement, donc il a fallu que je rase plus court. Et en arrivant au job, je me suis rendu compte que j'avais une zone qui n'était pas rasée. Non, mais j'aurais adoré être un biker, pouvoir mettre de la crème sur ma barbe, des trucs qui sentent bon et tout. Avoir l'air d'un bonhomme, quoi. Apparemment, on peut pas tout avoir. Peut-être que si j'attends encore un peu, 37 ans de plus, peut-être que là, ma barbe volera les poils au vent sur ma grosse bécane. Vivement la première catégorie.
La minute hawaïenne.
Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre?
La minute hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Le bon plan de Cyril vous est offert par Bliblablo de Net Plus et ses services internet, mobile et TV. Bliblablo, le multimédia d'ici.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais.
À la Galerie Oblique, jusqu'au 10 mai prochain, Marie Gaillan propose l'exposition Ciel charnel. Bonjour.
Bonjour.
C'est quoi Ciel Charnel? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Moi j'ai vu, il y a des lumières spéciales, il y a des textures, il y a des couleurs. Quel est votre univers? Qu'est-ce que vous présentez?
Alors, moi je dirais que mon obsession, mon fil rouge, c'est essayer de conjuguer le charnel et le spirituel, d'où le titre. Il y a une vidéo qui représente... il faut venir voir.
Ça c'est l'essentiel, justement, pour découvrir vos tableaux. Mais qu'est-ce qui vous inspire et comment vous créez, sur quelle matière?
Sur beaucoup de matières différentes. Je travaille un peu comme dans l'art brut, j'analyse... Parfois, pas toujours, ensuite. Mais c'est vrai que c'est très spontané. Il faut que j'ai la maîtrise de l'ancien, j'ai envie de dire, du sage, avec la spontanéité de l'enfant. J'aime bien conjuguer ces deux choses-là. Et puis, je travaille toujours après m'être centrée. Je sens que je ne suis pas seule quand je travaille. Je suis aidée.
Il y a des muses.
Avoir l'air d'être accrochée au plafond.
Non, c'est simplement des muses, en fait. C'est des muses qui vous inspirent?
C'est pas des muses, mais bon, si vous voulez, on peut les appeler comme ça. Je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est une présence.
Il y a quelque chose? Vous créez pas toute seule?
Non, jamais. Je suis nulle, toute seule.
Marie Gaillon à la Galerie Oblique, c'est jusqu'au 10 mai prochain à Saint-Maurice. Merci, bravo.
Mais je vous en prie. Merci à vous.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais, programme de nuit.
Le MAG, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est notre région, rapportée par la rédaction de la plus grande radio du Chablais au monde. Et on commence aujourd'hui par parler de précarité en Valais. Oui, il y en a, avec une table ronde organisée jeudi à Sion par le Forum alimentaire du Valais Roman. Et on le fait avec toi, Xavier Borgeot. Bonjour.
Bonjour. Effectivement, une table ronde intitulée « Pauvre en Valais, mon frigo est vide ». Et à cette occasion, différents intervenants se pencheront sur cette problématique alimentaire afin d'ouvrir le dialogue et tenteront d'amener des pistes de réflexion. Rappelons que le Forum alimentaire du Valais Roman regroupe de nombreuses entités d'aide alimentaire comme les Tables du Rhône, les Colis du Cœur ou encore les épiceries de l'œuvre suisse d'entraide ouvrière, l'Oseo Valais. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Sonati, membre du comité du Forum alimentaire du Valais Roman, mais également responsable du secteur adulte de l'Oseo Valais. Bonjour.
Bonjour.
Alors si cette table ronde a lieu, c'est ce jeudi donc à Sion, c'est dire qu'il y a une situation qui est préoccupante. Que peut-on dire de cette situation?
C'est que malheureusement, au vu de l'inflation, de l'augmentation des coûts, on peut penser à l'électricité, on peut penser aux caisses maladie, on peut penser aux denrées alimentaires, eh bien ça conduit de plus en plus de personnes à recourir aux structures d'aide alimentaire parce qu'elles n'arrivent tout simplement plus à tourner.
C'est vrai que le terme de précarité, on n'aime pas l'entendre de manière générale, mais encore peut-être moins sous nos latitudes en Suisse. Est-ce qu'aujourd'hui, ce tabou, il faut oser en parler?
C'est fondamental que la presse, que des organismes comme la nôtre se positionnent et mettent en lumière cette problématique. En fin de compte, c'est de rendre visible l'invisible, parce qu'à l'heure actuelle, c'est non seulement compliqué de boucler les fins de mois, mais pour plus en plus de personnes, ça devient difficile de boucler les fins de semaine. Et puis la précarité, ça peut être vous, ça peut être nous, ça peut être moi, ça dépend vraiment du parcours de vie. Et puis on peut se retrouver très haut et très rapidement tout en bas.
Alors juste, s'il vous plaît Guillaume Salaté, ce que je voulais vous demander de vous mettre sur le micro 3, parce qu'on a un petit souci avec le micro 4. Voilà, je vous laisse vous placer, je m'excuse de vous interrompre de cette manière-là. Voilà, merci infiniment, vous pouvez reprendre.
On parlait de précarité, à quel moment est-ce qu'on peut déterminer qu'on est dans une situation de précarité? C'est une difficile, situation... hein ça.
Alors clairement, mais c'est par exemple des indicateurs quand on n'arrive plus à payer nos factures, quand il y a de l'endettement qui arrive en permanence, quand on angoisse en comptant nos sous jusqu'à la fin du mois, quand on recourt à des structures d'aide alimentaire pour assurer à manger, parce que ça reste quand même un droit alimentaire. Et il y a une triste étude qui vient de sortir qui dit que 52% des familles ont de la peine à terminer leur fin de mois ou n'arrivent tout simplement pas à boucler les fins de mois. Donc le mythe de la riche LV6, ça commence vraiment à diminuer.
Et donc c'est là qu'il faut ouvrir le dialogue, mais c'est pas évident hein, de faire ce pas, vous le dites, quand on commence à avoir de la peine à payer ses factures, à aller se nourrir, c'est difficile de prendre son courage à deux mains pour se dire « il faut que je trouve de l'aide ». Tendre la main vers quelqu'un, c'est pas si facile que ça.
Malheureusement, au vu de la riche LVC, au vu des valeurs que l'on porte de travail, de responsabilité, on voit que de franchir le pas, de toquer à la porte des Tables du Rhône, des Colis du Cœur ou passer le pas de porte de notre épicerie solidaire et durable, ça nécessite du courage. Ça reste encore tabou alors que ça ne devrait pas être le cas. Parce que tout le monde est plus ou moins concerné et tout le monde peut un jour tomber dans cette précarité.
vous l'avez mentionné, il y a de plus en plus de demandes, malheureusement. Et de l'autre côté de la chaîne, ça devient de plus en plus difficile d'obtenir des denrées alimentaires. Alors, comment est-ce qu'on pourrait rétablir la situation?
Alors, c'est pour ça qu'on organise notamment une table ronde, c'est de réunir les différents acteurs qui ont une marge de manœuvre. Il y a par exemple une base fédérale qui est de plus en plus restrictive pour obtenir des invendus. On devrait aussi lutter par exemple contre le gaspillage alimentaire. Il faut savoir que 330 kilos par personne, par habitant en Suisse, est jeté. Alors on pourrait aussi trouver des stratégies à ce niveau-là. Et puis le politique pourrait par exemple davantage investir pour garantir ce droit à une alimentation saine, à une alimentation qui répond aux besoins, parce que l'on sait malheureusement que si on s'alimente mal, il y aura des répercussions sur la santé physique et psychique par la suite.
Donc un travail avec le politique, aussi sûrement avec les grands distributeurs, ça c'est aussi un acteur, enfin ce sont des acteurs qui sont extrêmement importants.
Alors ils sont fondamentaux dans cette chaîne, ils doivent aussi assurer des produits de qualité à des tarifs abordables, ils doivent aussi davantage donner leur reste alimentaire, mais d'autre part on sait que les centres commerciaux malheureusement travaillent de plus en plus à flux tendu et ça réduit les possibilités d'obtenir des restes alimentaires à distribuer aux personnes qui souffrent dans notre canton.
Est-ce que chaque individu peut aussi amener sa pierre à l'édifice? Est-ce qu'en tant que citoyen lambda, on peut se dire je peux tenir un rôle dans cette situation de précarité en donnant un coup de main, soit dans une épicerie ou en amenant des denrées?
Bien évidemment, c'est vraiment une responsabilité qui est sociétale. Tous les organismes réalisent des récoltes de denrées alimentaires dans les magasins. On vous invite vraiment à donner des pâtes, des produits d'hygiène, du riz ou que sais-je. Et puis aussi parfois de donner un certain financement, un petit don financier, ça permettra d'acheter les produits qui iront aussi égayer les papilles gustatives des personnes qui sont en difficulté chez nous.
Par rapport au profil des personnes qui sont touchées par la précarité, on le voit aussi de plus en plus de jeunes adultes qui sont touchés, des étudiants aussi, et ça c'est inquiétant.
Le plus difficile, c'est de constater que le visage de la pauvreté prend différentes formes. On peut penser par exemple à la famille monoparentale, à la maman qui s'occupe de ses deux enfants. On peut penser aux jeunes en difficulté. On peut penser à des retraités qui, malgré avoir travaillé tout du long, ont de la peine à boucler les fins de mois. Donc on voit que ça concerne de plus en plus de monde et c'est vraiment nécessaire d'agir et de répondre à ce besoin.
De ne pas avoir peur, hein. On a des exemples un petit peu partout dans la région. À Massonger, il y a une épicerie solidaire qui a vu le jour. C'est pour aider les gens, on espère qu'elle fermera un jour, le plus rapidement possible. Mais c'est par le biais de ces actions civiles, solidaires, que l'on peut avancer, puis essayer d'endiguer cette situation.
Alors c'est sûr que les associations, les organismes tels que la nôtre, eh bien on a vraiment une marge de manœuvre. Mais c'est aussi aux politiques, c'est aussi aux grandes surfaces de jouer le jeu de la solidarité et puis de garantir des biens alimentaires de qualité à des tarifs abordables.
Guillaume Cellati, moi je voulais vous poser la question, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens justement qui se sentent dans le besoin mais qui ont cette peur? Comment est-ce qu'on pourrait enlever quelque part cette peur? Est-ce qu'on a un truc?
Il n'y a pas de formule magique, l'important c'est de répéter, c'est de dire que ça concerne tout le monde, c'est de conscientiser, c'est de thématiser et de dire que c'est une réelle problématique sociale, c'est pas quelque chose qu'on doit mettre sous le tapis, parce que ça peut concerner nos frères, nos sœurs, nos papas, nos mamans, il suffit qu'on ait un divorce, il suffit qu'on ait une rupture professionnelle, un accident et rapidement on bascule dans le cycle de l'endettement. Donc c'est vraiment qu'on en parle et qu'on rende ça visible.
Et puis finalement qu'on se rende sur les lieux pour pouvoir justement bénéficier de ces aides.
Absolument. Et puis n'hésitez pas, là c'est un appel à toutes les personnes qui souffrent dans notre canton. Il n'y a pas de honte, c'est pas tabou, on est à disposition, on est là pour vous donner des paniers, on est là pour nous ouvrir vos portes et on ne vous juge pas, on vous accueille avec bienveillance et puis on essaye à notre niveau d'améliorer un peu vos conditions de vie.
D'où l'importance de cette table ronde de jeudi. En quelques mots, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre?
Eh bien, tout simplement de mettre autour de la table tous les acteurs concernés parce que chacun a un bout de responsabilité. Eh bien, l'État, les commerces, les organismes d'aide alimentaire, et puis c'est en discutant ensemble, en trouvant des synergies, en trouvant des solutions, qu'on arrivera à mieux répondre et à endiguer ce phénomène qui se développe et qui est extrêmement préoccupant.
Guillaume Cellati, merci beaucoup de votre visite. Et on rappelle que vous êtes membre du comité du Forum alimentaire du Valais-Romand, forum qui organise donc ce jeudi une table ronde intitulée « Pauvres en Valais, mon frigo est vide ». C'est à 18h à Sion, c'est juste, dans les bureaux de l'Oséo Valais.
Absolument, et tout le monde est cordialement invité. Et c'est réalisé dans le cadre aussi des 30 ans de l'Oséo Valais.
Merci beaucoup, et l'entrée est libre.
Absolument.
Donc n'hésitez pas, c'est jeudi soir. Merci beaucoup. Belle soirée à vous.
Une belle soirée, merci encore.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
On va à présent partir en direction de la Riviera pour continuer ce mag, puisque Vevey la Magnifique va piétoniser la place Robin, située derrière la gare sur la rive droite de la Veveyse. Un projet qui s'inscrit dans le plan directeur communal afin de suivre une volonté diminuer le trafic et l'impact de la voiture dans ce quartier. Pour ce faire, la surface de la place va donc doubler de volume, carrément. Et du coup, une question se pose. Que faire de cet espace ? Pour y répondre, la municipalité organise demain, mercredi 17 avril, une journée de démarche participative. Léa Journeau est allée rencontrer Julien Kane, du chef du service de l'urbanisme et mobilité de Vevey, ainsi que Marc Assal, responsable de projet au sein du même service. Et pour eux, faire participer la population et de nombreux autres acteurs était primordial.
Dans cette démarche, on a des experts, hein, des urbanistes, des ingénieurs mobilité, et on a décidé de finalement, comme tous les autres projets communaux, qui avaient vraiment une expertise de l'usager, du commerçant, qui devait être s'inscrire dans ce processus, et c'est des raisons pour laquelle la municipalité a décidé d'intégrer vraiment les habitants dans ce processus et les écouter dans le cadre vraiment de ce réaménagement.
On en parlait juste avant, le fait d'écouter la population, ça a plusieurs avantages. Ça permet non seulement de voir quels sont les besoins des habitants, et puis peut-être éventuellement de ne pas se tromper quand on fait le projet, c'est ça ?
Effectivement, avec ces démarches participatives, on voit où ça fonctionne pas, on fait des propositions et puis on voit si les habitants y adhèrent. Et surtout, après, ça va déboucher sur des aménagements tests. Hein. Comme son nom l'indique, le test va nous permettre d'essayer les aménagements. Et puis, si on se trompe, l'erreur n'est pas très coûteuse. On peut réorienter le projet pour après, finalement, faire le projet le plus proche des aspirations des Veveysans et des Veveysannes.
On aura 7000 mètres carrés de place. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dessus, on va dire ?
C'est vrai que maintenant, c'est pas mal ouvert. Il y a des grandes orientations qui sont quand même prises. Je crois que M. Ken en a parlé tout à l'heure. C'est cette question de l'adaptation aussi au changement climatique. Pour les villes, actuellement, c'est très important. C'est le phénomène d'îlots de chaleur, notamment. Donc, la perméabilisation des sols, c'est quelque chose qui est très important. La végétalisation aussi des espaces. Donc, il y a des grandes données de base. Mais après, il y a une grande liberté qui est donnée à la population de s'exprimer sur qu'est-ce qu'on va faire de tous ces espaces qui sont libérés et qui seront utilisables par tout un chacun dans le quartier.
Donc on peut imaginer des espaces avec, des arbres, bien sûr, évidemment, des bancs, des choses comme ça, des places de jeu. C'est un petit peu ce style-là qu'on peut imaginer.
Oui, effectivement, le but, ça sera de faire aussi un diagnostic de ce qui existe, parce que c'est une place qui est déjà très vivante, où il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très très bien. Donc le but, c'est pas de réinventer la roue et puis de tout mettre à la poubelle. C'est vraiment de partir de ce qui fonctionne, demander aux gens qu'est-ce qui fonctionne peut-être un petit peu moins bien, et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour compléter les installations qu'il y a sur la place. Et puis, ce sera tout ça l'enjeu de cette journée de démarche participative.
Vous avez mentionné le mot diagnostic. C'est ce qu'on va faire justement après, une fois que la journée s'est terminée, une fois qu'on a eu les gens qui sont venus donner leur avis. Il se passe quoi ? On fait un diagnostic et on regarde ?
Il y a le diagnostic, donc c'est un petit peu ce qui existe actuellement. Puis après, il y a les aspirations des gens par rapport au futur de la place. Et puis après, donc au terme de cette journée, il y aura un rapport qui sera établi par notre mandataire, l'atelier Olga à Lausanne, qui est spécialisé dans ces questions de démarches participatives et d'aménagement temporaire, qui sera établi et qui permettra de mettre en place un aménagement justement temporaire, test, dès la fin du mois d'août de cette année, et puis qui orientera le concours qui aura lieu depuis cet été jusqu'au printemps prochain, où on aura un lauréat pour un projet définitif pour cette place qui pourra être construite dès 2026 au mieux.
Le projet final, on le verra quand ?
Ça dépend toujours un petit peu du temps des procédures. Nous, on ne maîtrise pas tout complètement ces temps de procédure. On le voit avec la place du marché aujourd'hui. Au plus tôt, en 2026.
Tout ce projet-là, finalement, est-ce qu'on peut dire que ça va faire du bien au quartier ?
Le quartier se sent toujours un petit peu délaissé par rapport au reste de la ville. C'est vrai qu'il y a eu certains aménagements urbains qui ont tardé à arriver. Il y a beaucoup de développement immobilier, beaucoup de pression sur le bâti, donc beaucoup de construction, beaucoup de chantiers, et on peut dire une certaine densification. Et densification, on doit l'accueillir dans les centres urbains, quand on a une gare importante à proximité, mais il faut également imaginer des espaces publics accueillants, et c'est l'objectif un peu de ce projet, c'est avoir Marc en a parlé, diminuer les effets de l'eau de chaleur, diminuer aussi la pression sur le quartier en termes de véhicules, en termes de trafic automobile. On va éviter que les voitures traversent le quartier de manière trop importante, en mettant vraiment du parking, du stationnement aux abords du quartier, en périphérie. Donc ça s'inscrit vraiment dans une vision globale. Et cette place Robin en fait partie, c'est une des parties du projet. Il y aura bien sûr d'autres rues qui seront réaménagées. Tout est développé sur le site Vevey Demain, où on présente tous les projets. Donc voilà, c'est vraiment la pacification du quartier, remettre des arbres et entre autres aussi diminuer le trafic dans ce quartier.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
On termine ce mag en ajoutant une couche de solidarité. Ça ne fait jamais de mal. D'ailleurs, on peut toujours en rajouter, je pense. Direction le Haut Lac avec une course de soutien qui se tiendra ce vendredi en faveur de l'association Rayon of AHA, où près de 1400 élèves de Viola à Saint-Gingolph vont participer. Xavier Borgeot, rebonjour.
Rebonjour, tu le prononces bien. Rayon of AHA.
J'ai claqué mon truc. Tes invités sont pour quelque chose dans cette course.
Exactement. Ou Rayon d'Espoir, plus précisément. C'est le nom donc de cette association qui a vu le jour en 2022. Dans le Chablais. Sa raison d'être, développer une école pour filles dans un quartier défavorisé de la ville de Pune en Inde. Née d'une rencontre entre une enseignante de Vouvry et un orphelin hindou, l'association est à la recherche de soutien financier afin de développer son activité sur place en créant de nouvelles classes. Et cet élan de solidarité, tu l'as dit, pourra se vérifier ce vendredi puisqu'une course de soutien des écoles du Haut-Lac verra près de 1400 jeunes élèves y participer. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir la présidente de l'association Rayon of AHA, Catherine Bonvin-Pomater. Bonjour.
Bonjour.
Ainsi que Pierre-Yves Brutin, directeur adjoint des écoles du Haut-Lac. Bonjour.
Bonjour.
Alors, quoi de mieux que d'associer des élèves pour venir en aide à d'autres élèves à l'autre bout du monde ? Cet événement, cette course de soutien, c'était une évidence pour vous, Catherine ?
Oui, je trouve que c'est très touchant de faire travailler des enfants, enfin de faire participer des enfants à un projet tel que celui-là. Les enfants ici vont courir pour récolter de l'argent. Ils ont cherché des parrains, des marraines pour aider des enfants, des fillettes particulièrement en Inde, pour accéder à la scolarisation. Parce qu'en Inde, les fillettes ont des couches défavorisées et pauvres, ont rarement accès à l'éducation. Elles travaillent dans la rue pour avoir un petit salaire pour aider leur famille, ou alors elles restent à la maison pour s'occuper des frères et sœurs.
Alors comment s'est monté cet événement de vendredi, Pierre-Yves Brutin ? Est-ce que Madame Bonvin-Pomater est venue vers vous en disant il faut absolument qu'on organise quelque chose, et vous avez suivi ?
Ben écoutez, c'est vrai que Catherine est venue nous voir
avec beaucoup d'énergie, je suis sûr.
Ah exactement, elle a, avec son dossier sous le bras, rentrée dans le bureau, ça fait plus ou moins une année pour nous présenter son projet avec toute sa conviction et puis son énergie. Et c'est vrai que ben pour nous, direction des EDHS, c'est un projet qui nous a parlé parce que c'est bon, il est porté par une enseignante des écoles des EDHL, et puis ensuite sur un thème qui est sur l'instruction, la possibilité de donner à des jeunes d'aller dans une école, de construire une école. Donc c'est vrai qu'on a adhéré très rapidement à ce projet.
Et comment ont réagi les élèves ? Parce que au final, ils le savent, ils vont participer à un chouette moment vendredi, on n'en doute pas. Mais derrière, il y a quand même aussi un message, on plante une graine quelque part dans l'esprit de ces jeunes.
Oui, moi quand j'en parle en classe, j'en ai parlé déjà il y a quelque temps à mes élèves, la plupart du temps, les enfants n'en reviennent pas que dans le monde, il y a des enfants qui ne puissent pas aller à l'école, qui sont obligés de travailler. La plupart du temps, ils n'étaient pas au courant de ce fait-là, et ils trouvent très injuste, qu'ils soient filles ou garçons, le fait qu'il y a seulement une partie de la population qui ait accès à l'éducation, et pas tous les enfants.
Est-ce que ça permet de prendre conscience, même s'ils sont jeunes, de la chance que l'on a d'avoir une éducation de qualité ici en Suisse, Pierre-Yves Brutin ?
C'est vrai qu'on a toutes sortes de réactions, mais c'est vrai que moi j'ai assisté à des présentations sur le cycle, présentations aux élèves, et c'est vrai qu'il y a des réactions où certains jeunes disaient « mais non, de bleu, faut être fou de courir, récolter de l'argent pour construire une école, alors que moi l'école, c'est compliqué d'y aller, quoi. » Voilà, bon. Je vous rassure, c'était pas la réaction. C'était un petit peu symptomatique de quelques élèves, mais c'est vrai que eux, ça leur ouvre aussi l'esprit. C'est pour ça aussi que ce projet nous parlait, parce que on a tous un petit peu déjà nous adultes, on est dans notre confort, on se regarde des fois peut-être plus le nombril devant nous, et puis ce projet leur donne aussi la possibilité d'ouvrir un petit peu l'horizon, puis de se dire nom de bleu, c'est vrai que finalement, même si c'est peut-être compliqué des jours d'aller à l'école, finalement, on n'est peut-être pas si mal lotis. On a une école qui tient debout, et puis on a quand même une qualité de l'instruction qui nous ouvre des portes.
Et ça sort aussi de l'ordinaire, et ça, c'est important. Hein. C'est pas anecdotique auprès des plus jeunes. Hein.
Oui, et puis je pense que la solidarité, ça s'apprend depuis la plus tendre enfance, et puis ça s'apprend dans toutes sortes de façons différentes, la solidarité vis-à-vis d'autres enfants à l'autre bout du monde, mais aussi la solidarité vis-à-vis d'un camarade de classe. Je pense que c'est une culture à développer.
On va revenir sur...
Oui, je voulais peut-être rebondir là-dessus. C'est vrai que, voilà, nous école, c'est vrai qu'on est là pour leur donner des savoirs purs, mais aussi leur donner l'occasion de vivre des expériences qui les fassent, qui leur ouvrent, voilà, comme je l'ai dit auparavant, l'horizon qui les fasse grandir et puis mûrir. Et puis je pense que ce genre de projet leur fait aussi, les accompagne aussi sur ce chemin. Puis je pense que c'est important que les écoles leur donnent la possibilité de vivre ce type d'expérience sur leur scolarité obligatoire.
Vous avez travaillé par palier pour monter ce projet avec les différentes classes ou pas forcément? Est-ce qu'il y a eu différentes phases à l'école où on a pu discuter de la situation en Inde ou des objectifs de cette journée, où ça s'est fait en one shot comme ça?
Ça s'est fait gentiment. Il a d'abord fallu en parler aux enseignants qui, à leur tour, ont essayé d'en parler en classe. Mais je pense que c'est vraiment juste une petite graine qui a été semée et qui va germer et grandir. C'est un projet qui est ouvert. Donc, on a ouvert une toute petite lucarne dans le cœur des enfants. Et puis, petit à petit, il y a d'autres collaborations qui vont se développer. Il y a d'autres ouvertures qui vont se faire. On va pouvoir revenir après en présentant aux élèves le résultat déjà de cette course. Petit à petit, on va pouvoir développer d'autres synergies, par exemple, expliquer un petit peu comment ça se passe autour du monde, l'éducation, comment ça ouvre une porte sur la géographie, ça ouvre une porte aussi gentiment sur les langues, parce que quand les enfants de l'école de Pune auront grandi, donc à la maison, elles parlent hindi ou marathi, et à l'école, elles apprennent l'anglais. Ici, certains élèves, en grandissant, ont accès aussi aux langues. Donc, tous les élèves apprennent l'anglais. Et petit à petit, on pourra créer une correspondance entre ces élèves pour faire continuer ce projet.
Donc, sans que ça soit péjoratif, vous allez pouvoir capitaliser un petit peu sur cette action de vendredi pour avoir un suivi de l'évolution, non seulement du projet de l'association, mais aussi dans la notion de solidarité. Ça, c'est quelque chose que vous avez en tête, Pierre-Yves Boutin?
Exactement. Là, comme l'a dit Catherine, c'est une graine qui a été plantée. Et puis je pense que l'arbre qui en sortira, c'est vrai qu'il portera ses fruits peut-être d'ici, on en parlait avant, là, d'ici peut-être une dizaine d'années, lorsque l'école sera en place, lorsque on parlait de l'anglais. Voilà, on pourra peut-être mettre en place des échanges épistolaires, on pourra peut-être mettre des échanges d'enseignants. Allez, après, soyons fous, peut-être un échange un voyage, on ne sait pas, mais il y a tout reste à faire. Et c'est vrai que c'est un projet qui ouvre beaucoup d'horizons, quoi.
Et ça souligne l'ouverture d'esprit dans ce type de projet. On va revenir assez rapidement sur votre engagement par rapport à cette association, Catherine Bonfarmater. Pourquoi cette association est née comme ça en 2022?
C'est une histoire de cœur.
C'est une histoire de cœur et de rencontre.
Un premier voyage en Inde avec une rencontre et puis deux rêveurs qui se sont rencontrés et qui se sont dit « Et pourquoi pas ?» Hein, moi, je trouvais tellement beau que ce jeune homme qui a grandi dans un orphelinat, qui a eu la chance d'avoir accès à l'éducation, puis de devenir professeur de sport, dise à mon tour, je veux aider des personnes de mon pays à accéder à l'éducation. Et puis, je trouvais ça très touchant. Donc, j'ai adhéré à son projet et puis je me suis mise à travailler de mon côté pour le soutenir.
Donc, il y aura cette course ce vendredi, mais il y aura un autre événement, c'est le 27 avril prochain, un souper soutien, parce que vous êtes à la recherche de fonds, bien évidemment.
Tout à fait, parce que notre but, actuellement, on loue des locaux pour notre première classe. Donc, on est une première classe d'enfants très jeunes qui correspondrait un peu à une école enfantine chez nous. Et puis, notre but est de, chaque 2 ans, plus ou moins, ouvrir une classe supplémentaire pour permettre à ces élèves de suivre leur scolarité. Et puis, pour ça, il va nous falloir construire un bâtiment. Et pour ça, on a besoin d'argent. On a déjà trouvé trois jeunes architectes qui travaillent gratuitement sur ce projet pour nous faire des plans. On est à la recherche de possibilités pour acheter un terrain sur place, donc il nous faut pas mal d'argent.
Donc souper soutien, ça sera le 27 avril prochain à monter la salle de la gare. Très rapidement pour terminer, Pierre-Yves Boutin, qu'est-ce que vous attendez de cette journée de vendredi, cette course de soutien?
Ouais, ça va être une belle journée parce que ça met en mouvement aussi toute l'école et puis tous les acteurs de l'école. On aura les élèves là qui vont mouiller le maillot en courant ou en marchant, mais ils vont s'investir. On a les parents, il y a des parents qui sont proposés pour être présents, qui vont être là pour les encourager. Puis bien sûr, certains vont mettre la main au porte-monnaie. On a aussi des politiques qui soutiennent aussi à travers les commissions scolaires, des associations. Et puis, bien sûr, aussi les enseignants. Certains sont engagés dans l'organisation des courses. D'autres vont courir. D'autres sont là pour accompagner, encourager. Donc, c'est un beau projet qui met tous les acteurs de l'école en mouvement. Et on se réjouit de vivre cette journée avec toutes ces personnes.
Et à ce propos, j'aimerais vraiment remercier chaleureusement tous les enseignants qui se sont investis et puis toutes les personnes autour qui ont gravité et puis qui se sont investis pour que cette course ait lieu.
En tout cas, si ça, c'est pas une belle chaîne de solidarité, on s'y connaît pas. Hein.
Oh non, clairement, moi, je suis ému depuis tout à l'heure. J'ai pas pu en placer une, je suis ému.
Catherine Morvan-Pamater, Pierre-Yves Brutin, merci beaucoup pour votre visite. On vous souhaite plein succès, bien évidemment, pour vendredi avec la course de soutien et plein succès également pour la suite de votre projet au sein de l'association Rayon Off Achat. Merci beaucoup et belle soirée à vous.
Merci.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Va des rétro, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, bah c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Un produit du terroir. Et on en est ô combien fiers de ce produit. On connaît les asperges du Valais, mais il existe également les asperges du Chablais. Ça tombe bien, c'est avec une personne qui les fait pousser que je vais poser la question. À qui je vais poser la question, les asperges, c'est quoi ? Pascal Lathion, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes exploitant agricole à Murat, vous faites pousser les asperges du Chablais.
Oui.
Depuis, est-ce que vous faites que ça ?
Non, on a plusieurs cordes à notre arc. Alors on a d'autres cultures, carottes, oignons, pommes de terre, du maïs, du blé, du colza, du soja, des prairies, du bétail bovin pour l'engraissement et des moutons. Pour la viande.
Bon, bah alors dans ce cas, on est sûr que vous bossez toute l'année, mais cette période de l'année, elle est très particulière, principalement pour nos assiettes, mais pour vous aussi, j'imagine. Les asperges sont en train de sortir de terre. On rentre dans le vif du sujet. Les asperges, c'est quoi ?
C'est un légume, une famille des liliacées. J'ai connu à l'époque romaine. C'est le premier légume qui sort le printemps. Après notre cure en automne, on fait des carottes, des pommes de terre ou des choux. Ben le printemps, c'est le premier légume qui arrive sur le marché.
C'est le tout premier légume, les asperges.
Tout premier légume.
C'est impressionnant ça, parce que ben oui, effectivement, on a surtout mangé ben, des patates en hiver, des trucs comme ça, des carottes. Mais là, on peut le dire, c'est le premier, j'allais dire premier fruit qui sort de terre. Non, mais on se comprend dans la forme imagée.
Voilà, le premier légume qui a aussi des bonnes. Comment dire ça ?
Des bonnes propriétés.
La propriété pour la santé, c'est un nettoyant du corps.
Ouais.
Alors c'est très bien après les périodes d'hiver, quand on n'a pas trop de soleil, carnaval, on a plein de toxines.
Oui,
alors ça les nettoie.
À certains, on en a encore quelques restes, je vous l'avoue très volontiers. Bon, on commence. Déjà, on va voir, il y a plusieurs types d'asperges. Parce qu'on en trouve souvent des blanches, des vertes. Qu'est-ce qu'on a comme type d'asperges ?
Alors, j'ai de la perche. Blanche, verte et violette qu'on produit sur notre exploitation. La blanche et la verte, c'est la même plante, sauf que c'est la techniculture qui change.
Qu'est-ce qui fait que ça change justement entre ces deux couleurs ?
Alors la blanche pousse complètement sous terre. Alors on met 40 cm de terre sur le plateau, sur la racine, pour qu'elle soit complètement à l'ombre. Et la verte, que 20 cm de terre, elle pousse à l'extérieur. Et avec la chlorophylle, avec la photosynthèse du soleil, elle devient verte.
C'est voilà ça, en fait, c'est la photosynthèse. Donc ça l'empêche pas de grandir et de pousser en étant sous terre. Elle arrive à faire sans cette photosynthèse, on va dire. Mais c'est la photosynthèse de la partie qui va être émergée, en fait,
voilà,
qui va donner cette couleur verte grâce à la chlorophylle.
Voilà.
Parce que moi, j'avais entendu que c'était le fait qu'il y a celles qui sont mûres et celles qui sont moins mûres. C'est pas ça du tout, en fait.
Non, pas ça du tout. C'est vraiment un variétal. C'est la technique culturelle. Puis après, ouais, la violette. Alors là, c'est une variété qui est violette. Celle-là, elle peut, même si on la met sous terre, elle sort déjà violette.
Et quand elle sera sur terre ou sous terre, pour ainsi dire, elle va sortir violette
elle
de toute façon.
Elle va sortir violette, voilà.
Et pourquoi est-ce qu'on choisit une asperge plutôt qu'une autre? En tant que. Ben vous, pourquoi vous avez choisi ces asperges-là?
Après, c'est des goûts et des couleurs, mais notre région ici, on bénéficie des alluvions du Rhône, des terres très sablonneuses. Alors, l'asperge blanche, comment on va couper ça à 30 cm de profondeur avec une gouge, il faut que la terre soit vraiment légère pour couper ces légumes, cet urion.
Et puis, il faut que la terre soit légère.
Voilà.
Donc, si on avait une terre plus solide, enfin plus dense, finalement, on aurait opté pour un autre type d'asperge?
Alors, ce serait plutôt la verte. Dans certaines régions, ben ouais, ils ne peuvent pas faire de la blanche parce qu'ils n'ont pas assez de sable qu'on a ici, le bord du Rhône.
Il n'y a pas une terre suffisamment meuble, est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Bon, écoutez, moi je vous propose qu'on fasse une petite pause, histoire qu'après on puisse revenir en force pour parler de la technique, en fait, de l'agriculture, vraiment, de la culture de l'asperge, parce que je crois savoir que c'est un monstre boulot. Et on fait une petite pause et on revient juste après.
Radio Chablais, Programme de nuit.
Va des rétro, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Les asperges, c'est un légume de la famille des liliacées. C'est un légume qu'on connaît depuis l'époque romaine en Europe. C'est un légume qui a plusieurs variétés, mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que la différence entre les blanches et les vertes, c'est la technique de culture qui fait que on va mettre plus de terre par-dessus les blanches qui ne verront pas le soleil. C'est pour ça qu'elles restent blanches, comme moi, et les vertes, elles dépasseront du sol, elles feront de la photosynthèse, c'est ce qui activera la chlorophylle qui les rendra vertes. Pascal Lathion, vous plantez et ramassez des asperges du Chablais à Murat. Parlons un petit peu de cette culture qui apparemment, d'après ce que je sais, elle demande quand même beaucoup d'efforts.
Alors oui, surtout pour la récolte.
Vous avez une petite histoire là-dessus, quelqu'un qui est venu récemment?
Oui, plus tard que dimanche... Un autre collaborateur nous avait dit il pouvait avoir quelqu'un de plus. Alors on a dit viens seulement avec cette nouvelle personne. Et puis j'ai vu qu'il était un petit peu au bout de sa vie dans la journée. Et puis le soir, je vais vers lui, puis je lui demande pour demain. Il m'a dit non, c'est bon, faut me faire ma paye aujourd'hui.
Il a essayé, c'est bon, c'est voilà. Cool, il a fait son expérience. Mais qu'est-ce qui fait que ça demande autant de travail? Commençons déjà, la terre est prête à semer. Qu'est-ce qu'il faut déjà à ce moment-là?
Alors, je fais des plants, c'est des griffes, qu'on appelle ça. On commande ça chez des pépiniéristes à l'étranger. Il n'y a personne en Suisse qui fait ça. Comme c'est un tout petit marché pour la...